La fin de la ségrégation raciale à l'école.
Cour suprême.
Le droit à l'avortement.
Cour suprême.
Le droit de garder une arme à la maison pour l'autodéfense. George W. Bush président. Le droit pour les entreprises de dépenser des sommes illimitées dans les campagnes électorales.
Cour suprême, toutes ces grandes décisions qui ont un impact majeur sur la société américaine, c'est la Cour suprême qui les prend. Pas le Congrès, pas le président, qui sont les deux autres branches du gouvernement fédéral. La Cour suprême manie un immense pouvoir.
Et c'est pour ça qu'il y a autant d'enjeux autour de la nomination des 9 juges qui la composent. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'agitation politique en ce moment même autour du remplacement de Ruth Bader Ginsburg, la juge progressiste décédée fin septembre. C'est une occasion pour les conservateurs de faire pencher la cour beaucoup plus clairement de leur côté.
Alors, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aux États-Unis sans comprendre ce qu'il se passe à la Cour suprême, dans le bâtiment de marbre blanc en forme de temple grec qui l'abrite, juste derrière le Capitole. On vous y emmène.
Jordan Davis, l'Américain de service.
Et Eric Guevara-Frey, ancien correspondant aux États-Unis.
They want to destroy you and they want to destroy our country.
Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry. And so unproductive.
Washington DC, para plus B.
This is not an ordinary election.
Oh yay, oh yay.
Oh yeah. Oh yeah. C'est encore par ce mot que les audiences de la Cour suprême des États-Unis commencent. Héritage de la tradition judiciaire britannique, une époque où la loi se disait en français.
All persons having business before the honorable, the Supreme Court of the United States.
Les juges entrent, tout le monde se tait, l'audience peut commencer.
We'll hear argument this morning in case 1946, the United States Patent and Trademark Office versus Booking.com.
Les juges écoutent les arguments d'une partie. Puis de l'autre, pose des questions, certains beaucoup.
Et d'autres pas du tout, hein, comme Clarence Thomas qui est connu pour se taire.
Mais ça laisse un peu plus de temps aux autres juges parce que de toute façon, ils ont une heure en tout et pour tout pour chaque dossier. Alors, les audiences vont s'enchaîner comme ça entre le mois d'octobre et le mois d'avril. Alors, ces audiences sont publiques, on peut y assister, mais elles sont pas retransmises en direct. En fait, les juges ont toujours refusé de laisser entrer les caméras, malgré, évidemment, on peut imaginer la grande insistance des chaînes de télévision. Et pendant longtemps, il n'y avait même pas d'enregistrement audio. Ça date il y a une dizaine d'années maintenant qu'on peut entendre les voix de ces juges. Moi, je ne savais pas franchement leur voix jusqu'à il y a très récemment.
Et puis au mois de juin, avant la pause estivale, les verdicts tant attendus de la Cour suprême tombent en plusieurs salves.
Affirmative action. In perhaps the most emotional case of the term, the court tore down the 35-year-old limit on the total.
Les Américains saisissent la justice un peu plus de 40 millions de fois par année.
The owners of Hobby Lobby say Obamacare's. Et on est un peuple très litigieux, Eric.
Oui, je vois ça. Et la Cour suprême rend une centaine de décisions, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Donc c'est vraiment la crème des cas. Elle intervient lorsque des cours inférieurs ont rendu des verdicts divergents. Elle intervient pour régler des différends entre États américains ou alors pour régler des différends qui impliquent des hauts personnages du gouvernement.
Comme par exemple lors de la présidentielle en 2000, on s'en souvient sans doute, c'était quand la Cour a interrompu le recomptage des voix en Floride, ce qui a de fait donné la victoire à George W. Bush.
It was now 19 days past election day and a winner still had not been declared. In the end, Bush became president and served two terms.
Alors, les juges sont en chiffres impairs, 9. Alors, c'est pour éviter évidemment de se retrouver avec une cour divisée en deux blocs égaux et donc sans verdict, parce que ces décisions doivent se prendre à la majorité. Cela dit, les minorités ont aussi leur mot à dire. Ils peuvent écrire un argumentaire divergent dans lequel ils expliquent pourquoi ils sont en désaccord avec leurs collègues.
Ouais, tout ça se fait dans un profond respect mutuel. C'est d'ailleurs peut-être le dernier lieu du pouvoir fédéral américain où c'est le cas.
Ouais, comme le disait le juge très conservateur Antonin Scalia, ami d'ailleurs de Ruth Bader Ginsburg, il disait « on attaque les idées, on n'attaque pas la personne ».
Bon, d'ailleurs, la Cour suprême prend la plupart de ses décisions à l'unanimité, ou alors par une très grande majorité.
Et les juges, s'ils étaient politiciens, ils seraient des politiciennes affreuses, parce qu'ils ne connaissent rien, ou à peu près rien, de la politique.
Mais c'est qui ça?
L'un des juges de la Cour suprême, le très francophile Stephen Breyer.
Thank you.
C'est-à-dire, je suis même pas sûr de reconnaître sa voix en anglais, alors encore moins en français.
Hein. Oui, il lit du français tous les jours, hein, ça fait partie de sa routine. Bon, Stephen Breyer exagère quand il dit que les juges ne connaissent presque rien à la politique, mais en théorie, c'est vrai, la Cour suprême n'est pas là pour faire de la politique. Sa mission, c'est la protection des droits et des libertés garantis par la Constitution, la protection des institutions démocratiques, la protection des minorités contre l'abus des majorités. C'est bien ça qui doit prendre le pas sur la politique.
Mais la Cour n'est pas totalement isolée du bruit politique. Parce que les juges, même si c'est pas officiel, on sait que les juges forment essentiellement deux camps principaux. Il y a les conservateurs qui sont aujourd'hui choisis par les présidents républicains, et puis les progressistes choisis par les présidents démocrates. On essaie un peu de trouver des gens plutôt jeunes parce qu'ils sont nommés à vie, comme ça ils peuvent rester et influer sur les décisions de la Cour pendant 30-40 ans. Alors, et c'est pour ça que cet enjeu est aussi important aujourd'hui, parce que si on nomme une juge conservatrice pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, Donald Trump va donner une majorité très solide de juges conservateurs. Ça sera 6 contre 3, alors qu'aujourd'hui, c'était 5 contre 4. Donc, les conservateurs vont avoir un peu plus de marge au cas où l'un d'eux vote avec les progressistes.
Bah oui, tu parlais de ce cas où un juge conservateur voterait avec les progressistes. John Roberts, président de la Cour, un conservateur nommé par George W. Bush, a par exemple sauvé à deux reprises déjà l'assurance maladie Obamacare en votant justement avec ses collègues progressistes. Une fois qu'un juge entre à la Cour suprême, donc nommé par le président des États-Unis et confirmé par le Sénat, eh bien il ne doit plus rien à personne. Le fait qu'il soit nommé à vie, c'est justement pour l'isoler des influences politiques et garantir son indépendance.
Oui, et comme l'a dit Stephen Breyer, en théorie, la Cour suprême prend ses décisions avec le seul souci du droit. Elle analyse les dossiers qui lui arrivent à la lumière de la Constitution, la charte fondamentale du pays qui est en vigueur depuis 1789, une constitution dans laquelle sont figées les valeurs des Lumières, hein, liberté, démocratie.
Des valeurs abstraites rédigées dans les termes de l'époque, qu'il faut appliquer aux situations contemporaines. Le juge de la Cour suprême, Stephen Breyer, l'explique très bien.
Il faut traduire les valeurs qui sont permanentes aux circonstances actuelles. James Madison, Hamilton, George Washington et les fondateurs des États-Unis ne savaient rien de l'Internet. Ils ne connaissaient pas du tout les avions. Ils ne connaissaient rien de la situation, pas beaucoup, de la situation internationale, commerciale et les moyens et les problèmes que nous avons avec toute espèce de choses qui n'existaient pas dans le 18e. Et comment appliquer ces valeurs permanentes aux circonstances qui changent avec une rapidité extraordinaire? Voilà le défi.
Enfin, ça c'est le point de vue de Stephen Breyer qui défend l'idée d'une constitution vivante, donc de l'interprétation du texte fondateur avec le regard d'aujourd'hui.
Oui, parce qu'il est dans le camp des progressistes, alors qu'il y a un autre groupe de juges, les conservateurs, qu'on peut aussi qualifier d'originalistes.
Et pour eux, il faut comprendre l'intention originale des pères fondateurs et s'y tenir strictement. Donc, si un droit n'est pas mentionné dans la Constitution, c'est que la Constitution n'a rien à dire à ce sujet et pas question d'extrapoler pour pouvoir rendre un jugement.
Et justement, comment on lit la Constitution? Qu'est-ce qui est dans la Constitution? Que voulaient les pères fondateurs? Ils sont pas là pour leur demander. Alors, ça nourrit encore aujourd'hui un débat politique profond aux États-Unis. Prenez par exemple la légalisation de l'avortement en 1973-1973. C'était l'affaire Roe v. Wade, Roe contre Wade.
This is the CBS Evening News with Walter Cronkite.
Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. The majority in cases from Texas and Georgia said that the decision to end a pregnancy during the first 3 months belongs to the woman and her doctor, not the government.
Alors, Roe, c'était Jean Roe, une habitante du Texas qui a porté plainte sous un pseudonyme, il faut le dire. Elle avait contesté en justice une loi de son État qui interdisait l'avortement, sauf lorsque la vie de la mère était en danger. Bon, elle était victime d'un viol, donc elle avait été forcée de mener la grossesse à terme. Le cas est remonté jusqu'à la Cour suprême où deux arguments s'opposaient. Jean Roe, elle faisait valoir son droit fondamental à la vie privée, hors de l'interférence de l'État. Alors face à elle, il y avait Henry Wade, le représentant du Texas, qui invoquait le devoir de l'État de protéger la potentialité de la vie humaine.
La Cour suprême a tranché par 7-2 en faveur de Jane Roe, légalisant ainsi formellement l'avortement jusqu'au premier trimestre de grossesse dans tous les États-Unis. Cette décision a invalidé la plupart des lois fédérales et dans les États portant sur l'avortement. Dans sa décision, la majorité des juges a expliqué que la Constitution protégeait le droit d'une femme à avorter sans subir des restrictions excessives de la part du gouvernement.
Et c'est ça un peu la lecture style Constitution vivante. En revanche, les deux juges de la minorité, un qui était nommé par Kennedy et un autre nommé par Nixon, comme quoi à l'époque, en fait, la Cour était moins polarisée de manière idéologique, ces deux juges ont regretté que leurs collègues aient inventé un nouveau droit constitutionnel à l'avortement. En fait, ils les accusent de s'être livrés, et là je cite, à un exercice improvisé et extravagant du pouvoir de contrôle judiciaire. Autrement dit, ils ont inventé quelque chose qui n'était pas prévu par les pères fondateurs du pays et défendent donc ce point de vue originaliste.
La décision de la Cour suprême dans l'affaire Roe contre Wade est régulièrement attaquée par une partie des conservateurs américains et la droite religieuse. Ils voudraient retourner ce verdict, ce qui devient théoriquement possible avec une solide majorité conservatrice des juges.
L'avortement est l'un des enjeux principaux. Il faut que Dieu reprenne sa place en Amérique. Nous devons faire acte de repentance.
Bon, comme si le débat de société sur l'avortement n'était pas assez, on peut aussi ajouter un autre débat juridique. Il y a ceux qui considèrent par principe que la Cour suprême ne devrait pas revenir sur une décision qui a été prise dans le passé. D'autres, en revanche, pensent qu'il n'y a pas de problème si on revient là-dessus. En fait, dans son histoire, la Cour est déjà revenue plus de 200 fois sur des décisions qu'elle avait prises auparavant. Le même sort guette d'ailleurs Obamacare, qui est de nouveau devant la Cour suprême cette année. Voilà qui montre bien tout l'enjeu politique qui entoure la nomination des juges.
Et pas seulement les juges de la Cour suprême d'ailleurs, mais aussi tous les juges fédéraux des cours inférieures qui, par leurs verdicts rendus quotidiennement, influencent aussi considérablement la société américaine. Rappelez-vous, la Cour suprême ne traite qu'une toute petite partie des affaires. On en parle peu, mais Donald Trump, depuis son arrivée à la présidence, a nommé un très grand nombre de juges fédéraux, plutôt jeunes, ce qui garantit pour plusieurs décennies une grande influence des valeurs défendues par les conservateurs sur la justice, donc sur le pays. Faire pencher la justice de leur côté, c'était l'un des objectifs prioritaires des républicains ces dernières années.
Et il est quasiment accompli.
Washington DC, par A plus B. Réalisé par
Sandro Lichy.
I'm Jordan Davis and I approve this podcast.
Je suis Eric Guevara-Frey et j'approuve aussi ce balado.